on a essayé d'informer tout le monde. On a déjà informé par la page Facebook. On reviendra effectivement dans l'Angimag. On va refaire d'ici le 11 février, bien entendu, une série de piqûres de rappel en disant voilà. C'est comme ça, vraiment, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. On avait aussi bien veillé à coordonner les travaux entre Mormant et Nangis. J'avais demandé pas de démarrage des travaux à Nangis tant que Mormant n'est pas fini, parce que là, c'était vraiment la catastrophe. Il y a du bon sens quand même. Mais là, on est confronté avec cette motion à d'autres problématiques. On sent bien que la SNCF, voyant l'électrification arriver, se dire « Allez, on serre les fesses et puis ça va passer. Hein, » sachant qu'ils ont beaucoup de difficultés à trouver du matériel AGC, nos autorails Pimod, qui peuvent donc rouler lorsqu'il n'y a pas de caténaire et lorsqu'il y en a. Ce matériel a été construit sur un appel d'offres auquel la région Île-de-France a participé en son temps, et bien que nous ayons effectivement à l'époque alerté la SNCF et la région Île-de-France, qui pilotait à ce moment-là le STIF, la première décision du président de la région prenant la présidence du STIF, donc l'achat d'AGC pour la ligne Paris-Provins. Auparavant, le préfet de région qui présidait le STIF ne l'avait jamais décidé. On avait une situation extrêmement, extrêmement tendue, bien plus tendue encore que maintenant, mais c'est pas une raison. Aujourd'hui, on reconstate quand même une dégradation. Je vois Virginie Salitra, à l'époque, qui présidait une association qui s'appelait La Voix du Train, qui a participé à des actions qui ont abouti à l'acquisition de ce matériel. Virginie, bien sûr, qui est le membre de l'association à l'époque, mais il a été acheté simplement pour compenser le nombre de places existantes, sans imaginer que le fait d'avoir un retour à la régularité et l'accès à un confort qui n'existait pas avant, allait faire qu'il y aurait effectivement de plus en plus de voyageurs qui allaient prendre le train, ce qui était une excellente chose. Voilà, ça fait moins de voitures qui vont à Paris, c'est mieux. Mais donc, on s'est retrouvé très vite en sous-capacité, c'est ce qui est le cas, et la sous-capacité est aggravée à chaque fois qu'on a des rames qui sont en entretien ou qui sont accidentées lorsqu'elles rencontrent un sanglier, arrive. Et donc, on se retrouve avec des trains qui, au lieu de proposer 12 voitures, ce sont des rames de 4 voitures. Normalement, le train complet fait 12 voitures. Très vite, il est réduit à 8. Quand vous avez le besoin de capacité de 12 voitures et qu'il n'y en a plus que 8, évidemment, vous avez des gens qui ne peuvent pas monter dans les trains et qui prennent le suivant. Donc, il a été demandé plusieurs fois à la SNCF d'essayer de trouver des accords, puisqu'il y a des régions qui, c'était le cas de la région Grand Est, qui avaient déjà remplacé ce matériel-là par un autre, et donc il y avait la possibilité au moins de les louer. Les régions ne le souhaitaient pas. Le problème, c'est qu'il y a pire que nous sur la ligne P, il y a l'axe Maule, ici sur Ourcq, et où ils sont aujourd'hui en train de fonctionner avec l'ancien matériel, celui qui était encore en service en 2008 à Angers. Et donc finalement, les AGC qui ont été loués ont été en partie mis en service là-bas, donc pas du tout soulager la situation de la ligne Provins. Là encore, on ne va pas reprocher aux usagers de ce secteur-là de se battre aussi beaucoup pour l'amélioration de leurs conditions de transport. Eux aussi se battent pour l'électrification. Et ce qu'on leur répond, c'est que lorsque Paris-Provence sera électrifié, les AGC iront chez eux. Et eux, il faudra sans doute qu'ils se contentent de cela. Donc là, il y a encore une action qui est en cours pour assurer la desserte de ce secteur-là avec du matériel conforme à l'ensemble de l'Île-de-France. C'est plus simple. Parce que ce que nous promet Île-de-France Mobilité à la SNCF, c'est que comme on aura du matériel le francilien, donc c'est du matériel qui est développé au fur et à mesure partout en Île-de-France, donc on aura plus ce problème de rupture de matériel, puisqu'il devrait y en avoir suffisamment pour assurer le remplacement pour l'entretien à l'échelle de l'Île-de-France. On verra bien. Et puis ce sont des rames de 6 voitures, donc du coup, ça garantit quand même des compositions de trains plus optimales. Mais d'ici là, ça risque d'être vraiment très 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 difficile. C'est la raison pour laquelle on vous propose de soutenir doter la ligne ferroviaire de rames supplémentaires pour les rails de grande capacité, prioriser et améliorer la maintenance des AGC des équipements de la ligne ferroviaire. Voilà, ça peut peut-être aider aussi. Et puis, alors là, ça n'a rien à voir, je dirais, avec l'électrification. Ça, c'est la politique d'économie de moyens de la SNCF. Je lui ai peut-être demandé par une demande de mobilité, j'en sais rien, mais redéployer des agents formés dans les gares pour l'ouverture des guichets, la maintenance des équipements et assurer la sécurité à bord des trains et sur les quais. Je rappelle quand même une petite histoire que j'ai appris beaucoup plus tard quand j'ai pu me procurer les documents d'expertise qui ont été effectués. Alors, ou à la demande de la SNCF, ou à la demande des comités d'entreprise, concernant notre accident ferroviaire à Garnemangy. Mais il faut savoir que 10 jours avant l'accident, le dernier poste d'agent de circulation à Angers avait été supprimé. Et que lorsque le pompier et le chauffeur de camion ont essayé d'appeler l'agent de circulation qui est maintenant à Longueville, eh bien, ils n'ont pas réussi à le faire. Est-ce que ça aurait permis d'éviter l'accident? Je ne sais strictement rien. Probablement non, parce que le temps était court. Mais voilà, à force d'économiser sur les moyens humains, eh bien, effectivement, on peut risquer de fragiliser la sécurité du réseau. Donc voilà, c'est un petit peu long, mais pour recaler un petit peu tout.
Je reviens sur le Nangibus. Il y avait un projet avec la communauté d'Aglo il y a quelque temps, me semble-t-il, pour développer le Nangibus auprès des villages aux alentours. Cela permettrait aux personnes venant de, je ne sais pas, Montfontain, la Chapelle-Rabelais, etc., de ne pas y venir en voiture, du coup.
Alors, c'est pas le développement de Nangibus qui a été retenu pour des problèmes de matériel. Donc, Nangibus restera donc un transport urbain. Par contre, ont été donc développées deux nouvelles lignes. Une qui est entrée en service et qui dessert depuis le 1er janvier donc, le tourne derrière qui me dira si, parce que de mémoire. C'est du côté de Saint-Just. Saint-Just, La Rambrie, Vampillet, Rampillon. Deux bus le matin, deux bus le soir. Et lorsque on aura réussi à réorganiser donc, le circuit d'Angibus comme on le souhaite, ça permettra de mettre, donc, on espère en avril, peut-être pour un démarrage, décision en avril, donc c'est-à-dire peut-être un démarrage comme ça au 1er mai, d'une autre desserte qui passe donc là, c'est la Chapelle-Rabelais, Saint-Ouen, Fontenay. Alors après, je sais qu'à Gatin, les gens de Gatin disaient, et nous. Un, c'est une question de moyens financiers, puis d'engagement des transporteurs. Or, la communauté de communes a conduit avec un bureau d'études une enquête transport pour savoir quels étaient les besoins. La problématique, c'est qu'on a des besoins qui sont extrêmement diffus. C'est pas toujours la même heure, c'est pas toujours la même direction. En gros, à Gatin, vous avez des gens qui vont prendre le train à Tournan. Ils sont un peu tournés vers Rosay, depuis qu'ils vont au collège à Rosay, au lycée à Rosay. Donc du coup, ils sont plutôt tournant au Grèce, hein, tournant des directs Paris-Gare de l'Est. Et donc eux sont plutôt dans l'idée, ça serait bien d'avoir un bus qui fasse Gatin. Et puis d'autres quand même restent sur Nangis, d'autres sur Mormant. Donc on n'a pas réussi à déceler la possibilité de mettre en place un transport semi-régulier. Semi-régulier, c'est que les transporteurs disent on veut bien le faire en étant assuré qu'il y ait des voyageurs. Des bus vides, on peut le comprendre. Donc ça devrait s'améliorer, au moins un peu. Puis après tout, si ça donne des envies, peut-être que la communauté de communes pourra développer davantage. Moi, je crois vraiment que c'est le sens pour l'avenir, hein, parce que le parc relais de 499 places, nous sommes battus pour essayer de le concevoir pour qu'il puisse être étendu par la suite. Or, la réponse a été ce n'est pas faisable, il faudrait l'étendre tout de suite et les capacités budgétaires de France Mobilité ne le permettent pas. Donc, quand on franchit le seuil des 499, on n'est plus dans les mêmes normes, ça coûte beaucoup plus cher. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus d'autres solutions ici. On va se retrouver à chercher des solutions ailleurs si le parc automobile continue de prospérer. Et ça va devenir de nouveau très, très compliqué. Par contre, si on peut arriver à faire changer les habitudes pour l'utilisation plus importante du transport en commun, c'est peut-être là qu'il faut chercher la solution, les modes de transport aussi, plus de vélos. Exemplaire hein, en la matière, avec là on verra, puisque nos abribus vont être démontés pour servir de lieu de base travaux. Donc on peut se dire qu'au lieu de les remonter, ça serait peut-être plutôt intéressant de voir de France Mobilité, parce que c'est pas dans le projet de gare, la possibilité d'avoir des consignes à vélo qui soient fermées, protégées. Il y a un programme qui existe. Voilà, c'est cette année d'avoir des sujets avec une France Mobilité pour pouvoir en bénéficier. Je veux mettre aux voix cette proposition de délibération, cette motion, donc qui s'y oppose, qui s'abstient à l'état de fait d'unanimité. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 3. Attribution d'un mandat spécial dans le cadre de la délégation en Cisjordanie du 28 au 31 mars 2019 afin de soutenir l'action de l'association Al-Kalmanjati. Alors, de quoi s'agit-il? Le 27 novembre 2018, la ville de Nangy, dans le cadre de la programmation culturelle, a eu l'honneur et le plaisir de recevoir un quartet de l'association Al-Kalmanjati à l'espace culturel le temps d'un concert. Cette association œuvre avant tout pour l'enseignement musical chez les enfants palestiniens, principalement dans les zones marginalisées, et l'accessibilité à la musique pour la communauté palestinienne. Dans ce cadre, en partenariat avec la municipalité, une collecte d'instruments de musique a été organisée depuis ce concert pour soutenir ces actions. On a plus de 15 instruments qui ont été collectés. Il n'y a pas de panier de piano, mais il y a quand même des guitares. Or, il s'agit pour nous de transporter ces instruments. Or, nous avons appris que l'association de jumelage Palestine-France, la JPF, organise une délégation d'élus français en Cisjordanie du 28 au 31 mars, l'association qui est connue pour son sérieux. Et puis sa volonté de contribuer à une solution pacifique de ce conflit a l'habitude d'organiser ce type de délégation d'élus. Nous pensons qu'il s'agit pour nous d'une opportunité pour acheminer les instruments, puisque du coup on pourra confier à d'autres membres de la délégation le soin d'apporter dans ses bagages un instrument. Voilà en gros c'est ce qui est proposé. Donc, en application de l'article 21-23 18 du code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir confier un mandat spécial à l'attention de M. Michel Billot, même dans le but de représenter le conseil municipal lors de cette action au sein de cette délégation et d'autoriser la prise en charge des frais afférents à ces déplacements, au transport, incluant le surplus de bagages pour les instruments et l'hébergement. Dans l'attente des dernières précisions de ce séjour, notamment sur le nombre d'instruments qui seront collectés, les frais globaux sont estimés entre 2 000 et 2 500 euros. Vous demandez donc au conseil municipal de bien vouloir autoriser ce déplacement en Cisjordanie du 28 au 31 mars 2019 et de confier un mandat spécial à mon attention et celle de mon premier adjoint. Questions, commentaires? Qui s'y oppose, qui s'abstient, avec l'unanimité, je vous en remercie. Délibération numéro 4, proposition de lancement d'un diagnostic et d'un plan d'action potentiel pour le développement du centre-ville de Nangy. Thank you. par la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne. Madame Lagoutte, si vous voulez.
Merci, monsieur le maire. Afin de faire perdurer et de développer l'attractivité commerciale du centre-ville de Nangy, la Chambre de commerce et de l'industrie, la CCI, de Seine-et-Marne propose de réaliser un diagnostic opérationnel et un plan d'action potentiel pour le développement de ce dernier. Une présentation à laquelle l'ensemble des élus a été convié a été faite par la CCI le 13 décembre 2018 de ce projet. Celui-ci vous a été communiqué en annexe de la présente notice. Cette étude sera réalisée en étroite collaboration avec le service commerce et artisanat de la commune. Elle prendra en considération les habitudes commerciales des habitants de la commune, mais également celles des communes alentour, et notamment de celles membres de la communauté de communes de la Brie-Langissière. Elle se décompose ainsi. Premièrement, le diagnostic opérationnel. Il s'agit de l'analyse de l'attractivité du centre-ville, estimation de la part de marché du centre-ville, des pôles concurrents, du poids de l'évasion commerciale et la part des achats internet. Étude des clientèles du centre-ville et diagnostic du tissu d'entreprise de commerce et d'artisanat présent en centre-ville. Deuxième phase, mise en place d'un programme d'action opérationnelle. Étude de potentiel de développement avec comme objectif de déterminer les activités qui peuvent être développées en centre-ville. Plan d'action opérationnelle pour le centre-ville avec réalisation de fiches portant sur des pistes d'orientation. Et conception de supports de communication avec fiches d'implantation commerciale. Enfin, il y aura donc un accompagnement à la recherche de financement. L'aide régionale, le dispositif Pacte Rural qui a pour objectif de soutenir les actions de revitalisation commerciale des centres-villes et des centres-bourgs, des territoires ruraux, communes de moins de 10 000 habitants. Cette étude pourrait être réalisée pour un coût de 10 940 euros hors taxes, soit 13 128 euros DTC, sur la base du devis joint en annexe. Il est donc proposé au conseil municipal de confier le diagnostic opérationnel et plan d'action potentiel pour le développement du centre-ville à Nangy à la Chambre de commerce et de l'industrie de Seine-et-Marne et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à l'attribution de cette mission.
Un petit commentaire dans le sens où jeudi dernier à la CCBN, donc, nous avons appris que sur un Jacques Tipol, il y aurait des commerces qui arriveraient, comme vous l'avez dit d'ailleurs au cours de cette intervention. Alors, est-ce, ça crée un cinquième pôle commercial sur Nangy. Alors, est-ce que la CCI va en prendre connaissance et puis justement, est-ce que c'est pas dangereux de créer plein de pôles autour de Nangy et après le centre-ville va être désaffecté? Donc, ce sera beaucoup plus difficile de faire venir des commerces. D'autant plus que nous ne connaissons pas exactement la qualité des commerces qui seront sur Nangy et Tipol.
Je peux vous répondre sur le principe, pas sur le détail, puisque à ce niveau de discussion entre la communauté de communes et l'opérateur, les enseignes...
C'est une question que je pose de manière sur des débattue en conseil pour que les élus soient au courant.
Tout à fait, non, mais vous avez parfaitement raison. Puisque je l'ai fait devant le conseil communautaire, je peux vraiment le faire devant le conseil municipal. C'est pas un souci. Par contre, je ne pourrais pas prononcer des noms d'enseignes. Voilà, bon, c'est un peu un secret de polichinelle, mais voilà, en tout cas. Oui, c'est une question qui s'est posée. On a très longuement débattu. Puisque dans notre esprit, le fait de pouvoir développer de façon à peu près concomitante Nangy-Sac-Tipol et puis le secteur économique de la Grande Plaine, ça va être à peu près ça, on va avoir un an et demi d'écart entre les deux, c'est pas vraiment grand chose, nous avait amené à essayer de définir deux polarités différentes. Une polarité donc artisanat, industrie et services aux entreprises dans Nangy-Sac-Tipol. et activités commerciales et services aux particuliers dans la Grande Plaine. Il nous semblait à peu près cohérent. On peut effectivement imaginer que, si je regarde une entreprise de matériaux, de vente de matériaux de construction, c'est à la fois du service aux entreprises, à la fois du service aux particuliers, donc on peut l'imaginer l'un ou l'autre. Mais par contre, il nous semblait un peu étonnant qu'une enseigne de surgelés, hein, je ne la nomme pas, mais tienne absolument à s'installer non pas dans la Grande Plaine, mais sur Rungis Actifol. Donc c'est à peu près le cas, et cette enseigne a chargé un promoteur immobilier d'acquérir des terrains pour les besoins d'installation de cette enseigne qui ne s'installe jamais toute seule. Il fonctionne en pôle, effectivement toujours extérieur au centre-ville, sauf dans les grands centres-villes où il trouve une certaine place. Et alors on a essayé d'abord de dissuader en disant on ne comprend pas pourquoi cette entrée de Nangis, pourquoi pas venir sur la Grande Plaine. Il faut savoir que cette entreprise est en fait la propriété d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, on ne discute pas avec. Et nous avons rencontré, nous, le promoteur qui porte le projet. Et lui nous dit, mais je ne discute que par courrier. Voilà, donc il n'y a pas de relation directe pour essayer de... il a reposé la question de l'intérêt d'une installation sur la Grande Plaine et le retour a été pas question. Voilà, surtout, si vous voulez qu'on s'installe sur Nangis, ce sera à cet endroit-là. Donc nous avons eu une discussion importante avec d'autres élus de la communauté de communes, considérant l'intérêt du centre-ville et la Chambre de commerce et d'industrie, nous disant attention effectivement à ne pas créer une nouvelle polarité qui pourrait venir affaiblir le centre-ville, au moins veiller à ce que les enseignes qui s'installeront soient complémentaires de ce qui existe au centre-ville et pas en concurrence. Il y aura un peu de concurrence puisque dans ce projet qui pourrait voir sa spécialisation de 3 ou 4 activités, il y a une activité de restauration. Et l'activité de restauration, c'est pas un vrai souci puisqu'aujourd'hui, la concurrence, il en manque plutôt. Hein. Et puis donc, avoir une activité de restauration dans une zone d'activité en face de la zone industrielle, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà, c'est pas un souci. Sur les deux autres, on nous parle dans ces cas-là donc, d'un magasin de bio qui n'existe pas. Je préfère effectivement un magasin de primeur, parce que pas tout à fait des primeurs, il y en a. Il y a le marché, le bio, on n'a pas trop. On a Carrefour et Intermarché qui ont quelques rayons, mais voilà. Et puis l'autre, ça pourrait être donc. Un marchand de vin, hein, donc, qui n'existe plus en centre-ville. Ça a été très compliqué de demander aux élus communautaires de renoncer à ce projet-là, parce que c'est vrai que du coup, aujourd'hui, Nangis Actifol est pré-commercialisé à plus de la moitié de la surface, avec toute la moitié du fond. Et là, il y aura effectivement la moitié, une partie en façade, ce qui permettrait effectivement d'attirer d'autres activités. On sait que lorsque ça commence à se construire, c'est plus facile ensuite de commercialiser que lorsque c'est toujours sur le papier. Voilà, donc on a essayé de dire, un, pas de concurrence, deux, ça sera 1000 mètres de surface de vente pour toute la Nangis Actifol et pas d'autres projets. On est là-dessus et je pense qu'il faudra qu'on se tienne à cela de façon à développer. Alors, on a essayé d'autres choses, hein. On a essayé de leur proposer, parce que je sais qu'à un moment donné, quand nous on développe l'espace commercial des Roches, Carrefour contre-attaque en disant, puisque c'est comme ça, on va nous aussi installer des enseignes sur des terrains qui nous appartiennent. Enfin, tout autour du parking, il y a des terrains qui appartiennent et Carrefour pourrait les développer. Donc on a dit, ben, prenez peut-être contact avec Carrefour et voir si Carrefour ne souhaite pas voir compléter. été son offre commerciale. Ça éviterait d'avoir un pôle supplémentaire. Carrefour a refusé. Donc Carrefour, comme Intermarché d'ailleurs, ne souhaite pas le développement d'une enseigne de surgelés à proximité. Bon, moi je ne suis pas très inquiet hein, sur l'avenir de Carrefour et d'Intermarché à Nogis. Ce sont deux magasins qui fonctionnent bien, on les mettra pas en péril. Par contre, vous avez raison, M. Guévaro, je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant au commerce de proximité de centre-ville qui lui est beaucoup plus fragile. C'est pour ça qu'on vous propose cette étude de façon à refaire un diagnostic. Nous alors, il y a des pistes qu'on connaît, hein, parce qu'on a même proposé dans notre programme qu'on n'a pas mis en œuvre, après malheureusement la décision budgétaire de l'État à notre égard, qui était de mettre en place un périmètre de protection du commerce local qui permet donc d'avoir un droit de préemption, non pas seulement sur les murs, mais aussi sur le fonds de commerce. Permet, lorsque les murs sont à vendre, aussi de, dans certains cas, pas facile toujours de faire coïncider les deux, mais au moins, ça nous permet d'avoir. Mais pour ça, bah, il faut avoir un peu de budget. Parce qu'on peut, aussi emprunter et avoir des loyers qui remboursent un peu comme pour la gendarmerie, mais voilà, c'est un exercice un peu compliqué quand même. Donc, c'est vrai qu'on ne l'a pas mis en œuvre pour des raisons budgétaires, pour ne pas se trouver. Hein, en difficulté, donc on va voir s'il y a d'autres possibilités effectivement de pouvoir intervenir pour maintenir un centre-ville encore dynamique. Car il y a des cellules, ce qu'on appelle des cellules commerciales vides, mais on a encore après on a besoin de réfléchir, y compris pour préparer la cessation d'activité. On a certaines activités qui vont partir parce que on a des départs à la retraite qui se préparent. Donc on a besoin, notamment ce qu'on nous dit sur la fiche d'implantation commerciale, c'est d'aider les acteurs actuels à pouvoir vendre beaucoup mieux leur fonds de commerce. Donc voilà, ce qui est proposé. Bon, un acteur public, c'est peut-être mieux qu'un bureau d'études privé. C'est le pari qu'on fait. C'est 13 000 euros. Une partie serait sans doute subventionnable dans le cadre du dispositif Pacte Rural. Peut-être après coup, on verra. On ne va pas reporter les choses seules, mais on a besoin d'informations, d'un constat partagé avec le commerce. Voilà, d'autres questions, réflexions, il fait un peu froid là, je pense. Petit problème de thermomètre. Ok. Voilà, on a des gens malades. Aïe. Je peux mettre cette proposition au voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Allez, adoptez l'unanimité. Je vous en remercie. Alors. La délibération du 19 janvier 5, dénomination de la voie du programme des pâtures du Dé et transformation de l'impasse de la Gondouillère en rue de la Gondouillère. C'est M. Benissada.
Merci. Merci, M. le maire. Dans le cadre du programme immobilier réalisé par la SCCVNJ, les pâtures du Gué, qui consiste à la réalisation de 70 logements collectifs, 5 maisons et un pôle de santé. L'ensemble des accès se fera par la nouvelle voirie, créée dans le prolongement de l'actuelle impasse de la Grenouillère et jusqu'à l'actuel chemin de la gare. CF plan annexé dans la délibération. Cette voie nécessite par conséquent l'attribution d'un nom. Elle est proposée au conseil municipal de dénommer cette voie rue des Pâtures du Gué et dans le même temps de transformer l'impasse de la Grenouillère en rue de la Grenouillère. Cette dernière n'étant plus sans issue après les travaux.
À l'issue. Ce sera mieux. Un S. Enfin, c'est dans la délibération, elle est bien écrite.
Bon, on
on propose simplement de reprendre l'appellation plutôt pédastre. Donc, les peintures du guet, qu'on aime bien, et on n'a pas bien compris pourquoi, que j'ai dit, ne retenez pas voilà, la résidence des peintures du guet, ça aurait été peut-être plus sympa que la résidence du Châtel, qui est le clos Châtel, qui peut prêter quand même à confusion avec le Châtel de Nangy, on leur a dit, mais bon. Et la rue de la Grenouillère n'étant plus en impasse. Voilà, mais on avait envie que les peintures du guet ne tombent pas dans l'oubli. On a proposé aux uns et aux autres de transformer, d'avoir peut-être une seule rue, mais ceux qui sont sur le chemin de la gare souhaitent absolument conserver le chemin de la gare. Puis c'est vrai, bon, changer l'adresse lorsque vous êtes installé, ça veut dire quelquefois changer beaucoup de documents. Et donc voilà, on n'a pas trouvé de gens favorables au changement des noms de leur voie. Donc on propose de garder Grenouillère, chemin de la gare. Bon, changer en face de la Grenouillère par rue de la Grenouillère, pas de souci avec les facteurs. On a comme ça quelques cohabitations, hein, si vous voulez, Victor Hugo, vous avez du boulevard, vous avez de l'avenue. À l'origine, c'est bien un boulevard, c'est pas une avenue, mais vous pouvez référencer beaucoup, au moins 50% comme étant une avenue. Oui, en face, ça pose un tas de problèmes. Voilà, des avis contraires ? Non. Donc je mets aux voix, qui s'y oppose, qui s'abstient. Allez. Adopté à l'unanimité, nous aurons bientôt à nous prononcer sur la dénomination des voies des premières tranches de la Grande Chaîne. On va essayer d'avoir une réflexion un petit peu globale, parce que là on nous interroge sur la première tranche.
Est-ce que sur l'Angers-Tipol aussi, ou c'est la CCBN qui sera compétente?
Ce sera nous. Ça devrait pas tarder, effectivement, puisque là, si le projet effectivement d'installation de forêt mâchée se confirme, hein, là, il y a besoin d'autorisation préfectorale, il faudra dénommer la voie très vite. Donc nous aurons effectivement aussi en parallèle, alors bon, c'est moins un problème, puisque aujourd'hui les voies de Nangis-Sac-Tipol, c'est une voie principale et une boucle. Donc du coup, ça, à ma connaissance, ça fait deux voies, éventuellement trois, si on veut que les deux branches de la boucle soient distinctes. Par contre, sur la Grande Plaine, rien que pour la première tranche, il faut dénommer 7 voies. Donc au total, je pense qu'on devrait en avoir près d'une quinzaine. Alors sur la quinzaine, il y aura des prolongements de voies existantes. Donc de ce point de vue-là, le nom sera conservé. Voilà. Donc, on reviendra devant le Conseil avec peut-être des propositions thématiques pour une espèce de cohérence par quartier, puis à la fois rappeler un certain nombre de personnalités locales. On en a quelques-unes dans le tiroir, notamment le souvenir français là-dessus, ou des personnalités nationales, en veillant bien à retrouver un équilibre homme-femme. Des hommes célèbres versus des femmes célèbres. On avait commencé à faire effectivement dans les roches. Là, si on a plus de voix, on veillera à un bon équilibre. Alors, ensuite, délibération numéro 6, autorisation d'occupation précaire d'un logement de type T3 situé 1 allée du Trésor à Nangy, dans le cadre d'une procédure de péril ordinaire sur l'immeuble 623 avenue Victor Hugo. Madame Jérôme, je vous passe la parole.
Merci, monsieur le maire. La propriété située au 23 avenue Victor Hugo fait actuellement l'objet d'une procédure de péril ordinaire en raison de la dangerosité de l'immeuble par manque d'entretien. Suite à sa désignation par le tribunal administratif de Belard, un expert a été mandaté pour constater l'état de la maison et préconise dans son rapport une démolition totale du bâtiment. Dans ce même rapport, l'expert souligne également le risque matériel pour la maison mitoyenne 625 avenue Victor Hugo et ses occupants, car la démolition pourrait en effet entraîner l'effondrement des pignons et de la charpente. En vue de remédier au désordre et à la dangerosité manifeste que représente l'état de l'immeuble et des risques liés à la démolition, il est proposé de reloger gracieusement les locataires de la maison mitoyenne dans le logement situé au 1 allée du Trésor pour une durée de 3 mois, date estimée de la réalisation de la procédure de démolition, renouvelable si besoin. Il est précisé que ce relogement fera l'objet d'une convention d'occupation précaire pour des raisons exceptionnelles dérogeant au loyer voté par la délibération du Conseil municipal.
Si, madame, je vous avez des questions sur ce sujet. Voilà, c'est une affaire qui suit son cours. On avait tenté l'expropriation par constatation de l'abandon manifeste. Mais si les héritiers n'arrivent pas à se mettre d'accord pour vendre, on en a quelques-uns qui viennent faire quelques entretiens. Donc, du coup, l'abandon manifeste est tombé. Le problème, c'est que maintenant, c'est la maison tout entière qui risque de tomber. Donc, elle doit être démontée. Donc, nous avons interpellé, bien entendu, les ayants droit, de façon à ce qu'ils prennent à leur charge le démontage de ce bien. Il y a donc une procédure un petit peu à tiroir qui fait qu'en gros, il y a 3 mois pour les héritiers pour prendre une décision conjointe. Faute de quoi, nous procéderons, la ville de Nangy procédera à la démolition de cette maison, à la reconsolidation du mur de la maison voisine, parce que les occupants puissent y rentrer en toute sécurité, et les travaux donc seront mis à charge des héritiers. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Je n'ai pas senti frémir le vent d'une volonté unanime pour organiser la démolition. Mais toujours est-il qu'il nous semble plus prudent de faire sortir la famille de la maison d'à côté, même y compris avant les travaux de démolition. Les travaux ne dureront pas des mois, mais quand même, ça touche plus fort. Je mets la délibération aux voix qui s'y opposent, qui s'abstient, à l'adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 2019 janvier 7, signature de la convention d'objectifs de financement enfants, jeunesse, entre la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-et-Marne, la communauté commune de la ville nangicienne et la ville de Nangis. Le micro juste dirigé là.
Oui, c'est ça. La communauté de communes de l'œuvre nangicienne et la commune de Nangy est arrivée à échéance au 31 décembre 2017. Ce contrat enfant-jeunesse est un contrat d'objectif et de cofinancement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Il concerne donc tous les services de la ville de Nangy et de la communauté de communes de l'œuvre nangicienne qui œuvrent dans le domaine de la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Dans la mesure où la précédente convention d'objectifs et de financement est arrivée à échéance, il est proposé au conseil municipal de procéder à son renouvellement pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et d'en permettre sa signature. Il est précisé que cette convention a été transmise par notre partenaire début janvier 2019.
Voilà. Je précise que c'est une convention sans changement. Donc, c'est la poursuite des actions engagées dans la précédente avec le même accompagnement financier. Des questions ? voix, qui s'y oppose, qui s'abstient, est adopté à l'unanimité, je précise, à moins une personne qui va quitter la salle. Bon, vous votez quand même ? Merci. Super. La délibération 2019, janvier 8. Ah, mais non, une vote en moins. La convention d'objectif et de financement enfant-jeunesse entre la CAF des cinémas, la communauté de communes de la ville d'Angicienne et la ville de Nangy, tu la votes ? D'accord. Merci. On va y arriver. Convention d'objectif et de financement de la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne relative à la mise en place d'une aide financière fonds publics des territoires, axe 1, handicap jeunesse. Madame Nagel.
La convention établie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 avec la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne définit et encadrée les modalités d'intervention et de versement de l'aide financière attribuée dans le cadre du fonds public et territorial. Pour l'équipement ALSH, maternelle, la maison des Pitchouns, accueil de pré- et post-scolaires. La convention d'objectifs et de gestion porte de fortes ambitions au terme des réductions des inégalités territoriales et sociales. Il s'agit de réduire les inégalités tant en ce qui concerne le niveau du service rendu que la nature des réponses mises en œuvre sur le territoire. Le projet répond aux objectifs de l'axe 1, renforcé à l'accueil des enfants en situation de handicap, notamment sur les accueils pré- et post-scolaires maternels. Il vise à permettre l'ouverture d'esprit sur le monde du handicap par les actions de communication auprès des familles, mettre en place des espaces de dialogue entre les familles et les professionnels, recruter du personnel, mobiliser et soutenir les équipes par les formations sur l'accueil du jeune enfant porteur de handicap, mettre les parents au cœur du projet, mettre en synergie les acteurs du milieu ordinaire et des milieux spécialisés. Le financement de la caisse d'allocation familiale s'élève à 3 567 € pour l'année 2018. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne portant sur l'aide du handicap jeunesse en vue de permettre sa signature. Il est précisé que cette convention a été communiquée par ses partenaires début janvier 2019.
Voilà, donc c'est une action qui est passée. Il faut qu'on signe la convention, c'est souvent comme ça avec la CAF. On ne pouvait pas la signer avant puisque la CAF ne l'avait pas transmise. Donc on permettra de récupérer 3 567 € qui ont été dépensés pour des actions en 2018. Ça fait un peu désordre, mais on est pour les. Des questions ? Donc je mets aux voix cette délibération qui s'y oppose, s'abstient, la 9, demande de subvention, toujours auprès de la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne, dans le cadre de la mise en place d'actions relatives à la parentalité, Madame Lass.
Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de l'élaboration du projet éducatif du territoire, des objectifs prioritaires ont été déterminés, et notamment celui d'aider les parents dans leur tâche d'éducateur. La Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne peut apporter son soutien financier dans le cadre d'actions répondant à cet objectif. Ainsi, l'association REAP, Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, missionné par la CAF, propose d'aider à la mise en place de projets autour de la parentalité. C'est la raison pour laquelle le comité consultatif éducation de Nangy s'est réuni à plusieurs reprises pour exprimer les besoins dans ce domaine et proposer des actions en matière de parentalité sur la ville. Les objectifs retenus sont les suivants. Favoriser les échanges entre parents et entre parents et professionnels. Favoriser la réussite des enfants. Des actions susceptibles de répondre aux objectifs sont proposées. Alors créer des espaces parents et des espaces parents et professionnels. Impliquer les parents dans les actions éducatives mises en place par la ville et créer un lieu ressource. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir solliciter le soutien financier de la CAF sur ce projet et d'autoriser le maire ou son représentant à signer ce dossier et toute pièce s'y rapportant.
Merci, merci Mme Molas. L'aide à la parentalité, c'est un sujet très important. En fait, la CAF nous a sollicité pour mieux coordonner l'ensemble des actions qui sont conduites un peu de façon éparse, hein, par le milieu scolaire, par les associations, le centre social, et par nos propres services. Et la communauté de communes, avec l'Angisud, hein, le centre social, et le relais maternel, et les accueils de loisirs, tu as parfaitement raison. De la rappeler. Donc, en retour, on veut bien faire ce travail-là, et on se retourne vers la CAF en disant mais aidez-nous un peu financièrement. Je mets aux voix, qui s'y oppose, qui s'abstient, une déclaration d'adopter à l'unanimité. La délibération 10, affectation des dépenses à appliquer au compte 632, action de formation, sur la formation. Madame Lacoté.
Alors en effet, l'objet est donc les modalités de prise en charge des actions de formation dans le cadre du compte personnel de formation. Donc, la loi numéro 2016-88 du 8 août 2016 a instauré le compte personnel d'activité dans la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2017. Il est constitué du compte personnel de formation, le CPF, et du compte d'engagement citoyen, le CEC. Le compte personnel de formation se substitue au droit individuel à la formation, le DIF, abrogé par le décret numéro 2017-928 du 6 mai 2017. Ce nouveau dispositif permet aux agents publics d'acquérir des droits à la formation au regard du temps de travail accompli. Les heures ainsi acquises sont destinées à financer des actions ayant pour objet de maintenir un niveau de qualification ou d'accéder à un niveau de qualification supérieur ou permettre, pourquoi pas, des transitions professionnelles. Le décret 2017-928 fixe les modalités de mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique. L'article 9 de ce même décret prévoit que l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation, suivis au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements. La prise en charge des frais peut faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant fixant du plafond de prise en charge. En cas de constat d'absence de suivi, de tout en partie de la formation, sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés au premier alinéa. Afin d'assurer une maîtrise du budget formation de la collectivité, il convient de fixer les modalités de prise en charge des actions de formation demandées par les agents dans le cadre de leur compte personnel de formation, tout en respectant une priorisation fixée par la réglementation. Les modalités ont été présentées au comité technique dans sa séance du 20 décembre 2018 et a reçu un avis favorable à l'unanimité. Alors, vous verrez dans l'article 1, donc, est indiqué donc, les montants des frais pédagogiques des actions de formation qui seraient dans la limite de 1 500 € TTC pour chaque action. Peut-être pour préciser, conformément à la réglementation, une priorité sera donnée aux actions de formation suivantes. L'action de formation visant à prévenir une situation d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions. L'action de formation visant à l'acquisition d'un diplôme ou d'une certification. Et l'action de formation de préparation au concours et examen. Et donc dans l'article 2, comme indiqué dans la notice explicative, dit que les frais occasionnés par les déplacements, là, ne seront pas pris en charge par la collectivité. Ils resteront à la charge de l'agent. L'article 3 dit que les dépenses en résultant seront inscrites au budget.
Merci Mme Lacoté. Nous fixons donc un plafond de participation à hauteur de 1 500 € et nous fixons aussi un plafond de 2 actions financières. Voilà. Besoin, autrement, si on ne fixe pas les limites, 3. Deux actions.
justement au niveau des deux actions maximum par an pour l'ensemble des agents communaux, ça peut prêter à confusion. Pourquoi ne pas dire deux actions maximum par an par agent ?
Non, c'est pas par agent. Non, c'est pour l'ensemble.
C'est pour l'ensemble des agents communaux ?
Oui, oui, oui. On n'a pas énormément de demandes non plus. Hein. On encadre le dispositif est nouveau pour nous. Oui, non, mais ça peut paraître, mais vous savez, les actions de formation, souvent, nous, on est plutôt incitatif auprès des agents aux accès de partir. Donc là, il s'agit plutôt d'aider dans le cadre de projets personnels, puisque nous, les actions de formation sont plutôt des actions dans le cadre professionnel, par l'intérêt du service, ou pour accompagner donc une mutation dans un autre service. Nous, on n'aide pas les projets de formation personnels pour éventuellement préparer une conversion. Ou alors, on le fait en accordant des facilités. On l'a fait pour Netsen, hein, qui est aujourd'hui travaille à la médiathèque, mais elle a pris considérablement de son temps. Hein, donc, on a autorisé à réduire son temps de travail, le temps qu'elle se forme. Aujourd'hui, elle aurait pu prétendre à faire la même chose en utilisant effectivement le compte personnel de formation qui n'était pas en place parce qu'elle l'a fait. Mais voilà, ça a été une action comme celle-ci. On en a une tous les 5 ans aujourd'hui. Alors si demain il s'avérait que nous soyons face à beaucoup de demandes, on parlera si on a les moyens de les accompagner. Là, on commence à les prévenir prudemment. Hein, deux actions, ça peut paraître juste ridicule. Juste modeste. Hein. Mais par rapport à la situation des gens qu'on connaît, c'est pas disproportionné. C'est pas trop limité. Puis si tel était le cas, on viendrait. Hein, mais,
alors, d'autre part, dans la notice, vous annoncez qu'il peut prendre en charge les frais occasionnés par leur dépassement. Par contre, dans la délibération, les frais occasionnés par les dépassements ne seront pas pris en charge par les collectivités.
Eh bien, c'est une erreur de rédaction.
Je ne sais pas comment ça a été présenté. C'était...
Ne prends pas, je vous confirme. Le décret dit qu'on peut prendre en charge, mais nous disons qu'on ne prenons pas. Non, c'est effectivement de la prudence budgétaire. D'accord. Oui, monsieur Ceci, avec le micro.
Oui, merci monsieur. Pourriez-vous nous préciser quelles sont les actions de formation qui sont prises en charge par la collectivité dans le cadre de la promotion ou de l'amélioration des compétences professionnelles des agents dans la commune ?
Je vais vous transmettre tout le plan de formation. Voilà, c'est aussi simple que ça parce que ça va être long.
Oui, non, mais oui, parce que j'avais compris les modalités de prise en charge des actions de formation dans le cadre du compte personnel de formation, que ça comprenait la formation et l'amélioration des compétences. Donc, j'ai mal compris.
Non, c'est un compte personnel, c'est vraiment sur de la formation pour un projet personnel, pas professionnel. Ça existe déjà dans la fonction publique d'État depuis très longtemps. Hein, sur des accompagnements quelquefois de formation longue. Moi je l'ai connu dans l'éducation nationale pour permettre quelquefois justement une reconversion professionnelle. Vous avez une garantie de traitement, mais à 70%. Ce qui vous permet ensuite de partir en formation, mais vous financez complètement la formation. Mais vous avez un accord qui vous permet quand même d'avoir quelques revenus pendant ce temps. Donc c'est très confortable. Nous, on ne pourrait pas le faire aujourd'hui. Hein. Et donc là par contre on prend en charge une partie des frais de formation, tout dépend en gros, il y a des universités qui mettent en place des formations comme celle-ci, et où les frais de scolarité effectivement seront à la hauteur de 1 500 euros. Voilà. Puis par contre si vous faites une formation dans un organisme de formation privée, ça va coûter beaucoup plus cher. Mais, voilà, on n'a pas les moyens d'aller beaucoup plus loin que cela si on ne veut pas avoir les frais de personnel explosés. Voilà. Et en plus, voilà, on n'est pas certain, c'est pour ça qu'il y a un avis favorable unanime du comité technique. Donc les représentants du personnel n'imaginent pas non plus qu'il y ait une explosion des demandes de formation. Voilà, c'est vraiment pour accompagner des agents qui sont un projet très très particulier. Il y en a énormément. En tous les cas, qui décident d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est souvent de la réorganisation, c'est des centres de formation qui ne sont pas ici. Mais si les choses évoluent, on évoluera également dans la mesure du possible. D'autres questions ? Non ? Donc je mets au voix ces délibérations. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante est une délibération de rattrapage. Il y a des choses qui doivent être dites. Elle concerne l'utilisation de crédits pour dépenses imprévues, le versement du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et du dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Il avait été prévu au budget collectif 2018 une somme de 99 410 euros au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, dont nous sommes contributeurs depuis sa création. Hein, on a même contribué un peu plus que ça, et donc avec le renforcement de la communauté de communes, on a eu un effet modérateur, je dirais, puisqu'on a contribué quand même pour plus de 150 000 euros. Hein, et là, on avait estimé dans les calculs qu'on serait contributeur de 99 410 euros. Or, il s'avère que nos comptes n'étaient pas justes, qu'on ne prenait pas en considération tous les éléments. Il s'avère que la ville est contributrice à hauteur de 117 626 euros pour l'année 2018, soit une différence quand même de 18 216 euros en notre défaveur. L'information n'avait pas été portée à notre connaissance avant le vote du budget, elle a été portée à notre connaissance au mois de juin. Par ailleurs, il avait été également prévu 8 811 euros au titre du dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Et là, le montant effectif arrivé pour 2018 s'élève à 8 865 euros, soit une différence, cette fois-ci en notre faveur, de 54 euros. Là aussi, ce sont des éléments qui ont été portés à notre connaissance au mois de juin. Il devait donc être délibéré avant le 31 décembre pour pouvoir modifier ces sommes. Or, le mois de juin, c'est le moment où nous avons un changement de directeur aux affaires, aux services financiers, et il y a eu un oubli de délibération, et c'est notre comptable public qui nous a rappelé au début 2019 qu'il y a eu cet oubli et qu'il était nécessaire d'y remédier dans les plus brefs délais en utilisant une procédure qui nous est effectivement autorisée par l'article 23.2-2 du Code général des collectivités territoriales, qui nous permet de le faire par décision, de toute façon on est en train d'une obligation. Néanmoins, dans ce cadre-là, à la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal de l'emploi de ce crédit. Ainsi, par cette délibération, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'utilisation des dépenses imprévues pour du coup financer les 18 216 euros qu'il convient de recréditer en dépenses et en recettes de dégrèvement de la taxe d'habitation sur le logement de vacances. Ça n'aurait pas dû vous être présenté sous cette forme-là, ça pouvait être présenté en décision modificative avant le 31 décembre. Ça n'a pas été fait, je suis tout le monde excusé, donc on a rattrapé. En fait, bon, ce sont des opérations d'ordre, on est obligé de les faire, mais quand même. Donc j'ai souhaité. société en tous les cas, rendre public ce qu'on a fait, on aurait pu se reproduire, à changer de la de transfert. Voilà, si vous êtes d'accord, on va vous pénaliser, je propose de l'adopter. Il y a des questions? Non. Je vais vous voir. Qui s'y oppose, qui s'abstient, et de l'unanimité, je vous en remercie. La dernière délibération qui annule et remplace la délibération numéro 2018 de novembre 165 concerne les tarifs de participation de l'activité organisée par le service municipal de la jeunesse pour 2019 et ses managers pour la présente.
Les tarifs de cession au brevet d'aptitude en fonction d'animateur, BAFA, votés en novembre 2018, présentent un tarif pour les sessions d'approfondissement supérieur à la session générale, ce pour les longiciens comme pour les extérieurs. Afin de permettre aux titulaires de la session générale de finaliser leur BAFA et en considérant que le coût réel de la session d'approfondissement payé par la ville aux organismes de la formation est inférieur au coût de la session générale. Il convient de modifier les tarifs comme suit. Voté en novembre 2018, session générale, longicien, 240 euros, extérieur, 337 euros. Approfondissement, 265 euros, 362 euros pour les extérieurs. Proposition du nouveau tarif. Session générale, longicien, 240 euros, extérieur, 337 euros. Approfondissement, 230 euros pour les longiciens, 327 euros pour les extérieurs. Il est proposé au conseil municipal de réactualiser les tarifs de participation aux activités organisées par le service municipal de la jeunesse pour l'année 2019. En tenant compte de cette modification, les autres tarifs du service jeunesse demeurent inchangés.
Sur les tarifs qu'on vous propose de modifier. On va discuter longuement de cette question qui est relative au service jeunesse. Quelqu'un souhaite intervenir? Non. Je vais mettre aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Il n'y a pas de questions diverses, il n'y a pas de questions orales. On va pouvoir aller se réchauffer dehors.
Monsieur Billou, simplement le 30 secondes. Il m'a été posé une question cet après-midi, dans le sens où dans le centre-ville, c'est un des amis qui circule en moto. Et il voulait savoir, il a cherché partout dans le centre-ville, il n'y a pas de lieu dédié au stationnement pour les motos en centre-ville.
Ouais.
Donc savoir si il pouvait stationner n'importe où et puis...
La moto est un véhicule, il peut stationner le long du trottoir ou sur le reste de parking.
Oui, mais il se gare, il y en a plusieurs qui se garent à côté de la fontaine au niveau de la halle, sur le trottoir. Donc c'est pas un endroit qui gêne. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible de prévoir
d'organiser un stationnement pour les deux roues motorisées?
Voilà.
Je pense qu'on peut prendre en considération cette demande qui n'est pas satisfaite sur le terrain. En attendant, donc, où il garde son véhicule comme un véhicule à quatre roues, pas de souci, ou si certains emplacements le permettent normalement, le stationnement des deux roues sur trois roues autorisé n'est pas autorisé par le code de la route. Allez, je répète séance. Merci.